mardi 6 décembre 2011. Bienvenue à l'aérospatiale avec Gilles Gagné à l'animation avec moi cette semaine pour sa revue de presse, mais également pour la mise en onde de Raymond Poirier. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Mais très bien, toi?
Ça va très bien. C'est le mois de décembre. Éventuellement, un jour, il y aura de la neige, des vacances, des fêtes et autres. C'est la joie et l'allégresse dans ma vie.
Et côté
je
décembre.
Trop longtemps.
J'allais dire, côté décembre, les nominations du Gala des arts visuels sont sorties. Je t'en parle dans ma revue de presse tout à l'heure.
On a effectivement hâte. Côté décembre aussi, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Québec? C'est le festival Relève en capitale, donc qui célèbre les gens qui se sont mérités des bourses dans le cadre de Première Ovation. Et pour faire honneur à ce festival-là, cette semaine, on consacre une émission notre émission à Exploration spatiale, donc l'exposition des artistes en art visuel, médiatique et en métier d'art qui est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, en première partie d'émission, on discutera avec la commissaire Audrey Caro. Puis ensuite, on rencontrera Marjorie de Chantal et José Landry-Sirois qui nous parleront un peu de leur proposition. Également, elle fait partie de l'exposition, mais elle ne viendra pas pour nous en parler. Anouk Péloche va venir nous parler de Ravissement de Cindy Dumais qui est présentée au lieu. Mais avant toute chose, on rencontre Simon Roy. Bonjour Simon. Ça va bien?
Ça va très bien.
Tu nous as fait une proposition hivernale cette semaine?
Rassurez-vous, par contre, aucune musique de Noël. Donc, si vous êtes à l'abri, vous n'en entendrez pas, c'est certain.
Excellent.
J'ai un album, j'avais vraiment hâte de faire ma chronique. C'est un album par un artiste russe du nom de ABC 100. C'est Alexander Senyagin, un artiste qui vient de la ville de Moscou. J'ai pas beaucoup d'informations à propos de l'artiste. Si on entre son nom d'artiste dans Google, ça nous donne des références vers une machine pour détecter les faux billets. Donc, j'ai pas plus d'informations que ça à propos de l'artiste. Je vais vous présenter son album Cosmic Dance of Tanzania, donc Danse cosmique de la Tanzanie. C'est un album d'une quinzaine de pièces. C'est des collages sonores, c'est un peu noise, un peu glitch. J'adore le sens de l'humour de l'artiste. Ça pourrait presque être pop, mais un pop assez déjanté. C'est publié sur l'étiquette Webbed Hand Records. C'est une étiquette assez sympathique. Ils ont plus de 200 albums en téléchargement gratuit. Puis c'est maintenu par un couple du Massachusetts. C'est deux artistes en art visuel. Donc, peut-être aller voir aussi. C'est Christopher P. McDill qui fait des genres de collages de gravures. Un artiste assez intéressant, donc un artiste assez complet qui maintient une étiquette vraiment intéressante. Donc, c'est ça, on va écouter la première pièce sur l'album qui s'appelle Cosmic Dance of Tanzania. La première pièce s'appelle Escape from the Star Captain Part 2. Ensuite de ça, c'est Gina and Mike Part 1, 2, 3. La troisième pièce s'intitule Night de Jay. Puis, on va entendre la dernière pièce qui s'appelle Stall. Vous allez voir, quatre pièces vraiment intrigantes, vraiment tordantes.
Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
On a le plaisir de t'entendre dimanche soir à Web Music.
Oui, à 20h, à tous les dimanches, plein de musique gratuite dans toutes sortes de styles.
Ben, merci beaucoup. On écoute tout de suite un extrait de Escape from the Star Captain Part 2 sur les ondes de CKRL. We'll be right back. et ça se laisse très bien écouter. Merci Simon Roy pour cette suggestion. On a entendu un extrait de l'album Cosmic Bands of Tanzania de ABC 100. Si vous appréciez, si vous avez envie de télécharger gratuitement quand même, hein, c'est la plupart des choses que Simon Roy nous propose sont en téléchargement gratuit sur Internet. Mais vous pouvez aller faire un tour du côté de l'aérospatiale.wordpress.com. Vous trouverez les liens pour les pièces qu'on a entendues, les albums, également pour l'étiquette. Et également aussi, Raymond de Poirier s'apprête à nous faire sa revue de presse, mais vous pourrez également trouver les liens sur la revue de presse qu'on attend avec impatience. Les nominations, Raymond.
Et oui, les nominations sont sorties en cours de semaine dernière et j'ai l'impression que ça fait depuis septembre que je vous parle de ce gars-là, en fait, le projet, les catégories, le lieu, maintenant la nomination. Alors, quand même pas mal de catégories, donc je ne ferai pas en détail, comme tu l'as dit, de toute façon, le lien sera sur le blog dans les prochaines minutes. Ce qu'on retiendra peut-être de manière générale, c'est qu'il y a beaucoup de nominations montréalaises. Québec a une petite place, s'en tire quand même pas mal, mais n'est pas extrêmement présent là, dans la sélection d'artistes de ce premier gala.
C'est dommage, considérant la vitalité, en fait, du monde des arts visuels à Québec.
Ouais, effectivement, en fait, j'ai eu une petite tristesse. Je dois te l'avouer en voyant les nominations. Cela dit, il n'est pas absent. Il y a notamment blogueur de l'année, Christian Messier de Punctum Art Visuel, qui s'y retrouve nominé aux côtés du Vadrouilleur Urbain et d'un show de motards. Et il y a également jeune commissaire de l'année, Sébastien Hudon, qui s'y retrouve aux côtés de Meredith Carruthers et de Marie-Ève Beaupré.
On en profite pour les féliciter, d'ailleurs.
Ben oui, effectivement. Et les félicitations sont mises pour un peu tout ce beau monde, d'ailleurs, en général. Je vais peut-être rapidement quelques exemples. En fait, meilleure exposition, c'est en artiste autogéré. Barda au Dazibao, Bunk Bed City au Centre Clark, dans le ventre de la baleine chez Optica. Sinon, en fait, meilleure manifestation artistique, la foire papier 11 de l'Association des galeries d'art contemporain. Une autre nomination, Québec élargi, en fait, perdre le Nord, dans le cadre de l'événement Est-Nord-Est, ça c'était à Saint-Jean-Port-Joli, donc Marie-Ève Beaupré, commissaire, également Traficard 2010, qui se retrouve dans cette catégorie. Galeriste de l'année, Roger Bellemare, Pierre-François Ouellette et Joyce Yaouda, avec tous les trois galeries du même nom. Critique d'art, en général, tiens, des gens du Devoir, Marie-Ève Charon, Jérôme Delgado et Nicolas Mavrikakis du Voir. Et sinon, ben, peut-être quelques autres, on va s'en lancer deux autres catégories, tiens. Meilleure exposition dans un musée, donc Musée d'art de Montréal avec Henry Sala, Galerie Léonard et Bina Allen, Martha Wilson avec Martha Wilson à être à l'œuvre. Sinon, Art of Grace à la Galerie Léonard et Bina Allen également. Meilleure exposition en région, tiens, à Rimouski au travail, la Galerie Expression qui va chercher deux nominations là-dedans, des objets sur des tables et juste une image. Et sinon, en terminant, on parle de la bouse carrière Jean-Paul Riopel qui sera remise à Pierre Blanchette. L'hommage à un intervenant du milieu qui lui sera remis à Louise Derry également.
Enfin, eh bien, félicitations à tout ce monde-là. On attend la suite des choses. C'est clair dont on nous livre les informations au compte-gouttes. On crée l'événement de cette manière-là.
Et sinon, ben, en fait, je ne sais pas si vous avez quelque chose de prévu ce soir, mais c'est rare que je propose un documentaire à Art TV, en fait, vous dire, installez-vous devant votre télé. Mais ce soir, il y a un documentaire qui a l'air bien intéressant de Suzanne Guy, qui s'appelle « Scraper l'art », où on traite, en fait, du malheureux destin de nombreuses œuvres d'art public qui ont été détruites par erreur ou par ignorance. Elle nous donne notamment un exemple, une œuvre en céramique qui s'appelle « Le lac Saint-Jean stylisé » de Jordi Bonnet, qui avait été exposée sur un mur extérieur d'un édifice Bell à Dolbeau-Mistassini, et cette œuvre-là avait été détruite en 92 quand on a refait le revêtement d'édifice. Alors, on a une œuvre d'art de Jordi Bonnet, pourquoi pas.
Ça vaut rien, cette affaire-là.
En fait, il y a plein de situations comme ça qui sont un peu aberrantes, où finalement, on se retrouve dans des situations où des œuvres d'art qui ont été créées dans le cadre du programme du 1% sont détruites par ignorance, comme si les gens qui avaient responsabilité des lieux qui intègrent ces œuvres d'art-là n'avaient pas conscience de la valeur ou de l'intérêt de ces œuvres-là. Alors, c'est un peu toute la politique même du 1% et son encadrement qu'on vient questionner un peu là-dedans, mais dans la portée long terme de la chose. Alors, bien intéressant, c'est ce soir, je pense, autour de 20h30 à RTV. Petit clin d'œil à Montréal, tiens, au passage, Musée des Beaux-Arts de Montréal qui a sorti sa programmation 2012 avec un gros événement, notamment Robert Lepage, qui fera son entrée en avril prochain dans la foulée de la Biennale internationale d'art numérique, la première du genre. Alors, l'art numérique qui trouve sa place au musée, on en parle beaucoup de ces nouveaux médiums-là, alors ce sera intéressant de voir ce qu'il en sera offert. Et sinon, parallèlement, on parle aussi d'exposition sur Lionel Feininger, qui est un contemporain de Kandinsky et de Klee. Il y aura également une heure du pop art qui sera offerte, pourrait-on dire, avec un peintre quand même un peu boudé à certains égards là, dans les années 70-80, Tom Wesselman. Alors, une relecture formaliste de son œuvre qui sera proposée. Et il y aura également, à l'automne 2012, des chefs-d'œuvre impressionnistes du Clark Institute, avec notamment des Monet, des Gorot, des Gauguin, des Degas, etc., etc. C'est une exposition qui est en tournée internationale.
Ouais, ça devrait faire courir les foules, hein?
Oui. Et je vais rapidement avec les deux derniers petits clins d'œil, puisque le temps file, notamment un article, qui fait un peu controverse sur le web et un peu partout. En fait, c'est un collectionneur d'art anglais, Charles Satchki, qui n'est pas n'importe qui. En fait, c'est un grand collectionneur anglais. C'est lui qui a lancé plusieurs artistes des années 90, Damien Hirst, Tracy Emin. Et donc, il a critiquer de manière assez acerbe le milieu des collectionneurs d'art contemporain. Il les a traités d'oligarches modeux, d'eurotrash, propriétaires de hedge funds, vacanciers des Hamptons, dotés d'un égocentrisme masturbatoire qui préfère exposer de l'art conceptuel avant tout car ils sont bien en peine d'évaluer une peinture. Il a dit, et j'ouvre les guillemets, longue citation, « Tous ces gens apprécient-ils vraiment l'art ou aiment-ils simplement posséder une œuvre de marque facilement reconnaissable, achetée avec ostentation en salle des ventes à des prix exorbitants afin de décorer leurs nombreuses maisons flottantes et autres dans une démonstration instantanée de cool et de richesse? Même un narcissique crâneur et intéressé comme moi trouve ce nouveau monde de l'art extrêmement désagréable. »
Ouch!
Ouch!
Voyons voir s'il va y avoir une riposte.
Effectivement, aussi, ça changera quelque chose. Et en terminant, on s'en était parlé, triste nouvelle de disparition donc, de Mathieu Lefebvre, qui est décédé dans un accident à New York. Et en fait, si on va sur le site de Mathieu Lefebvre, mathieulefebvre.com, on peut signer une pétition liée aux moyens de transport et aux conséquences des accidents liés au transport à New York, parce que le conducteur qui a renversé l'artiste ne sera pas poursuivre aucune conséquence de ça à cause des lois et des processus en vigueur là-bas. Et parallèlement, les parents d'Alain Lefebvre, Alain et Erika Lefebvre, les parents de Mathieu, pardon, sont en train de créer un fonds à Montréal pour les jeunes artistes émergents. Donc, ils invitent les gens à donner via PayPal aussi pour créer une bourse, un prix Mathieu Lefebvre en la mémoire de leur fils.
Eh bien, on les y encourage. Raymond, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On le disait tout à l'heure, c'est Relève en capitale. Tu vas d'ailleurs être au Cercle avec Pecha Kucha dimanche.
Exactement, deuxième soirée de la saison spéciale Relève en capitale. Et on va faire nous aussi des petits regards vers l'exploration spatiale. Il y aura Anouk Desloges qui sera sur place pour présenter son travail, sa démarche également, E et O, qui seront de passage. Donc, c'est dimanche à 20h20 au Cercle.
Eh bien, merci beaucoup. On s'en va en pause audio. On écoute Gina and Mike, part 1, 2, 3, et ensuite, on discute avec Audrey Caro.
Scientist easy to investigate between. Wealthy bee scientist, easy.
Voilà, c'était un extrait de Gina and Mike, part 1-2-3. Je l'ai dit en français tantôt, mais c'était probablement en anglais que ça devait être prononcé. Donc, c'est tiré de l'album Cosmic Dance of Tanzania de ABC 100, une suggestion de Simon Roy que vous pouvez retrouver sur le site de l'aérospatiale.wordpress.com avec tout plein d'autres choses également. Les émissions en balado diffusion. On le dit depuis tout à l'heure, Relève en capitale bat son plein. Pour cette deuxième édition, on récidive avec une exposition, on pourra en parler. On rencontre la commissaire d'exploration spatiale, Audrey Caro. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Première expérience de commissariat?
Oui, effectivement. Hein. Vraiment, on est dans le thème de la relève, parce que même la commissaire aussi est de la relève.
Ouais, je pense que c'est volontaire, par contre, de la manœuvre basse, si je ne me trompe pas.
Ben oui, c'est sûr que on essaie toujours d'aller chercher, oui, des gens de la relève là, pour donner un coup de pouce aussi à tout le monde dans ce processus-là.
Et, exploration spatiale, tu as retenu le thème de l'espace, hein, je crois, chez les artistes. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a guidé ton choix, ta réflexion vis-à-vis les gens que tu avais envie d'avoir à l'exposition?
Mais c'est vraiment tout simplement en consultant les dossiers des artistes qui avaient reçu les bourses. Donc, par hasard, comme ça, il y avait déjà des noms que j'avais entendus, ou des artistes que je connaissais. On a commencé à feuilleter les dossiers. Et c'est quelque chose qui s'est venu assez rapidement à mes yeux, comme ça. Ça a leur sorti du Louvre. Donc, c'est vraiment un peu à l'improviste, comme ça, que ça s'est révélé à moi, là, l'idée de l'espace.
L'idée de l'espace, puis par la suite, tu as vraiment retenu les 10 personnes plus spécifiquement.
Exactement, c'est ça. C'est vraiment à partir de quelques artistes, mais je dois dire aussi que, bon, j'ai toujours eu un petit faible pour l'installation, donc ouais. C'est sûr que déjà là, à partir de ça, l'idée de l'espace était très logique, mais aussi en ayant su le lieu, ben tout était indiqué pour ça. Mais non, c'est ça, c'est vraiment comme ça. Puis après ça, il y a quelques artistes qu'il a fallu que je creuse un petit peu plus, mais ça n'a pas été trop difficile que ça a apparu à moi, ça.
Tu parlais du lieu, justement, c'est quand même un endroit assez particulier qui est peu exploité au Musée national des beaux-arts. C'est vraiment dans l'ancienne prison, dans les cellules, là, pour la plupart.
Exactement, oui, c'est ça. C'est surtout dans la partie des plus grandes cellules. Enfin, on dit grandes, mais elles sont quand même assez petites.
C'est un peu étouffant, là.
Oui, exact. Mais c'est ça, oui, il est exploité de temps à autre par le musée, mais c'est sûr que c'est un lieu qui pourrait en voir plus, justement, et surtout, je trouve, avec les propositions que je suis allée chercher avec les artistes, vraiment, ça a été... on pouvait pas mieux l'exploiter, puis je dirais même qu'à l'interne, les employés même du musée, aussi que les visiteurs que j'ai pu croiser, vraiment, sont super étonnés du résultat et adorent, justement, ce jeu avec l'espace, avec le lieu qu'on a ici.
Ben oui, parce que ça force, j'aime pas le terme forcer, mais je veux dire quand même une relation de proximité vraiment du spectateur avec les œuvres. Parce que là, on peut, je veux dire, dans l'embrasure de la porte, on peut pas être 4 ou 5 là, dans cet espace-là. Oui. Ça nous met vraiment seuls face aux œuvres.
Oui, effectivement, parce qu'il faut dire que ces lieux-là, auparavant, ils étaient destinés soit à 1 ou 2 prisonniers, mais à vrai dire, il y a même eu jusqu'à 3, mais ça reste quand même des univers, vraiment un lieu très, très fermé. Donc, c'est aussi l'idée de, avec plusieurs œuvres, de jouer avec l'expérience du spectateur, justement, qui se sent inclus dans l'œuvre, justement, et qui a une autre perception du lieu aussi.
Oui, je pense, entre autres, à Vincent Robitaille, oui, qui nous a fait une installation vraiment immersive. On se croirait dans le ventre de la baleine, là, carrément, avec son bois de grève.
Ah oui, exact. Et Vincent, c'est un que j'avais déjà vu auparavant, avant même de voir la sélection des artistes. Et il avait tout de suite retenu mon attention. Et justement, quand j'ai vu qu'il était là, lui, il a été, je pense, parmi mes premiers à être sélectionné, parce que je le savais qu'il pourrait me faire une proposition très, très intéressante. Et justement, vraiment une vise dans le mille, littéralement, là, avec cette espèce de... C'est très poétique, hein, même si on a l'idée d'une baleine, et certains ont vu l'idée aussi du bateau, un peu aussi en même temps, mais effectivement, c'est des univers immersifs qui font totalement oublier le lieu dans lequel on est inclus.
Mais ça force aussi, j'imagine, parce que bon, les artistes produisent, mais ils sont pas toujours en train de produire, ils ont pas toujours des nouvelles choses à nous montrer, donc ça force aussi à repenser leur travail en fonction de cet espace-là, donc à une réflexion complètement différente vis-à-vis la mise en espace.
Mm-hmm. Bien, c'est ça. Déjà qu'il y en avait certains qui c'était dans leur démarche même. Pour d'autres, ça a été un beau défi, justement, de s'inclure là-dedans. Je pense, par exemple, aussi à Anouk, qui a un travail peut-être un petit peu plus, on peut dire, traditionnel, avec des tableaux, surtout ce projet-là, Psychochem. Mais il reste que c'était aussi de voir comment bien placer ça dans l'espace de la cellule pour, justement, aussi avoir cette petite relation-là avec l'œuvre directement aussi, oui.
Mais là, on parle de l'espace de la cellule, il n'y a quand même pas juste des œuvres dans les cellules. Je pense notamment, il y a José Landry-Serrois, on va la rencontrer tout à l'heure, Marjorie de Chantal également. Mais je pense à E et O, qui font vraiment un pied de nez assez ludique, hein, à la religion, avec les moutons en forme d'église, le grand Christ sauveur.
Oui, bien, à vrai dire, ce qui est assez étonnant, c'est que moi aussi, j'avais eu cette... quand tu m'as proposé le projet, à vrai dire, j'avais cette idée-là aussi, cette perception-là de dire, oh, c'est quand même un pied de nez, une petite critique à la religion, mais à vrai dire, pour eux, c'est pas vraiment ça.
Ah non?
Sinon, c'est ça, ben, l'idée de base, c'est plutôt si on regarde l'ensemble avec le Christ et les, si on peut dire, église, moutons, donc un beau mélange d'hybrides ici, c'est vraiment l'idée un peu du berger. Comme je l'explique dans le catalogue qui est exploité ici, c'est sûr que le symbole est assez fort. C'est quelque chose aussi qui nous rejoint dans notre réalité. Mais c'est ça, c'est vraiment l'idée du berger, espèce de leader, ou si on peut dire, qui a, à différentes échelles publiques ou beaucoup plus personnelles aussi, que cette figure-là qui nous a marqué, qui a mené peut-être vers quelque chose, un projet commun, des choses comme ça. Donc aussi, il y a...
Tout un système de valeurs là, qui est
issu. Exact, c'est ça, une symbolique. C'est ça aussi qu'il ne faut pas juste se leurrer à la première lecture. On peut aller plus loin aussi dans cette œuvre-là. Mais enfin, les petites églises moutons-hommes sont tellement mignons. Plusieurs
c'est tellement mignon. Est-ce qu'il y en a à vendre? Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, j'en achèterais.
Ah, bien, il faudrait voir avec les artistes même. Moi, je suis sûre qu'ils seraient bien heureux de pouvoir justement les offrir parce qu'ils ont mis beaucoup de temps là-dessus. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de monde au vernissage, là. Puis même après, les gens me disaient, oh, on a juste le goût des flatter, là.
Ben
ils sont très proches à proximité de nous.
Petit visage expressif aussi, là, qui provoque l'attendrissement, en tout cas, de la fille en moi, à tout le moins. Là. Ah, je suis pas pour les gars, là, mais...
C'est ça, puis je dirais aussi, ça fait partie de EO, ce petit côté qui nous rejoint, un petit côté naïf aussi au travers de ça, qui nous ramène au monde de l'enfance aussi parfois. Donc, non, vraiment, EO, pour les métiers d'art, j'étais très contente de les avoir sélectionnés.
Et si je reste dans l'espace, je dirais peut-être le palier, mm-hmm. C'est ça, de la cage d'escalier, il y a aussi Annie Baillargeon qui nous propose un triptyque en photographie quand même assez, parce qu'Annie Baillargeon, c'est son espace, son collage visuel.
C'est dans l'œuvre en tant que telle, l'idée d'espace, là, littéralement. Il faut dire que j'étais vraiment très, très heureuse de l'avoir dans la sélection parce que c'est une artiste que je connaissais depuis déjà un bon moment, que j'apprécie beaucoup son travail, mais j'étais très heureuse d'avoir ces nouvelles photos qu'elle présente, parce que c'est un nouveau corpus qu'elle va présenter à Montréal. Donc, je les ai en primeur pour l'exposition. Donc, j'étais vraiment très heureuse de les avoir, mais c'est surtout quelque chose de tout nouveau dans son travail parce qu'elle n'utilise d'habitude que des fonds noirs ou blancs. Donc, vraiment,
d'un espace vide, c'est de l'eau avec des
exactement, tissus. Là, dans le fond, cette nouvelle série-là, c'est les éléments naturels qui sont utilisés comme éléments de fond. Là, ici, moi, j'ai la chance d'avoir un lot, mais à la fin, ça reste toujours qu'il y a une certaine ambiguïté, une ambivalence à savoir est-ce vraiment de l'eau ou peut-être même un ciel? Parce que
ça avec les effets dessus.
Les effets, c'est ça qu'elle a fait sur la photo, c'est vraiment ça. C'est une belle ambiguïté quand même qui reste quant à l'espace où se trouvent ces personnages-là.
L'ambiguïté aussi à savoir qu'est-ce qu'ils font.
Oui,
est-ce qu'il, y a du plaisir? Est-ce qu'ils sont en train de se noyer? Moi, j'ai cette espèce de genre empêtré un peu dans le tissu. Mm-hmm. Ça fait lourd, mais en même temps, il n'y a pas cette lourdeur-là dans le travail non plus.
Ah, effectivement, elle a vraiment bien réussi, je trouve, dans ce projet-là, à nous questionner, justement, à revoir un peu nos perceptions aussi là-dedans.
D'ailleurs, bon, j'allais faire un lien avec la perception, c'était plus ou moins pertinent, mais j'avais envie de parler du travail de Dan Brough, parce que Dan Brough, habituellement, travaille vraiment à partir des lieux où il va exposer, et là, lui, il a décidé de fermer.
Oui, bien, effectivement, il a travaillé avec le lieu. Dans le fond, il est allé visiter sur place, et puis, pour lui, vraiment, le lieu avait une présence vraiment très, très forte. C'était un personnage en soi, et puis, il a voulu vraiment jouer avec le lieu. Et au départ, il m'avait proposé, justement, peut-être l'idée de fermer la porte. J'avais bien aimé ça. J'ai dit, ah, si on peut, si un des artistes peut arriver à jouer avec ça, j'aimerais bien. Et puis, finalement, après quelques questionnements, il a décidé, finalement, de laisser la porte fermée pour un peu narguer le spectateur aussi.
Ben oui.
Lui dire, regarde, on touche pas à mes peintures, c'est précieux, une idée de préciosité de l'œuvre d'art, mais également aussi, parce qu'il y a un petit banc qui est tout proche aussi dans l'espace, en regardant son tableau comme ça au travers de la grille de la porte, vraiment, ça nous donne, finalement, le goût de vouloir entrer. Et il faut dire que c'est un lieu qui, à la base, était un lieu de réclusion, un lieu où on voulait être là. Donc, c'est en même temps de revirer l'usage, si on peut dire, du lieu à la base. Donc, de le rendre plus attrayant qu'il est.
D'ailleurs, tu parles d'attrayant. Je pense que ça m'amène à faire un lien avec Valérie Potvin. Mm-hmm. C'est son personnage avec les oiseaux et les baguettes dans une structure qui tient à même les murs de la cellule.
Mm-hmm. Exact. Ah oui, ça a été tout un tour de force, mais aussi, je pense, quelque chose de très difficile pour l'artiste à apprivoiser parce que, oui, c'est dans son monde habituel de créer des univers à la fois étranges, mais aussi très étonnants. Il reste que, ici, elle a dû apprivoiser la couleur parce que, je ne sais pas si tu as déjà vu son travail.
Je ne sais pas beaucoup encore.
Mais c'est ça, elle a exposé notamment à l'œil de poisson et puis deux fois, elle avait présenté des sculptures, installations blanches. Donc, vraiment, c'est aussi une sorte de malaise quand on arrive devant quelque chose de tout blanc comme ça, alors que là, ici, elle travaille la couleur pour la première fois, mais elle est vraiment allée à fond, là, dans la couleur, des couleurs
mais très fluo, là.
Oui, il y a des couleurs fluo là-dedans, donc vraiment, visuellement, c'est très chargé, mais je pense que, en tout cas, à date, les commentaires que j'ai eus, c'est une œuvre qui retient beaucoup l'attention, justement, par cette vivacité, l'éclatement des couleurs.
Mais ça rappelle aussi le jeu, je pense que ça s'appelle Mikado, le jeu des bâtonnets, là, qu'il faut en enlever un.
OK, puis, oui, là, effectivement.
La précarité. Peut-être une dernière question. En fait, je veux faire le tour de tous les artistes. Peux-tu nous parler un peu de l'île de Marie-André Cormier?
Oui, bien, Marie-André Cormier, c'en est une autre qui joue beaucoup avec l'espace, mais à l'aide de la vidéo. Et dans le fond, l'idée de base avec ce projet-là, c'était de transformer le lieu qui est très fermé en soi, mais de l'ouvrir, justement, de jouer avec cette ouverture-fermeture du lieu.
Avec l'eau par terre.
Avec l'eau par terre, justement, qui vient créer un autre écran de projection, mais également l'idée de circularité aussi. Les personnages entrent d'un côté, ressortent de l'autre, mais ne reviennent jamais sur leurs pas. Donc, l'espace aussi s'élargit par le fait qu'il y a un mouvement de circularité qui est dans notre tête.
Un espèce de hors-champ aussi.
Exactement, de hors-champ qui vient se créer, mais qui est dans notre tête, finalement, mais qui vient ouvrir encore plus l'espace.
Eh bien, Audrey Caro, tu souhaites probablement récidiver l'expérience des commissariats. Penses-tu déjà à des idées de projet?
Ah, ça fait longtemps que j'en ai plein en tête. C'est sûr que oui, je veux récidiver parce que j'ai beaucoup apprécié l'expérience. J'ai pu vraiment, oui, mettre à l'épreuve mon écriture dans le beau catalogue.
Ben oui, parce qu'un catalogue à quoi? 10 $, je crois.
À 10 $ seulement, qui est en vente à la boutique même du musée pour toute la durée de l'exposition. Mais sinon, sur le site web de Manifestation internationale d'art de Québec, c'est en vente constamment aussi à 10 $.
Ben voilà. l'invitation est lancée. Cette exploration spatiale est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec jusqu'au 15 janvier. Audrey Caro, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On s'en va en pause et au retour, on discute avec Anouk Desloges.
En collaboration avec Relève en Capital et l'Ampli de Québec, le collectif Mélogramme lance son nouveau EP, La Salle d'attente. Riche de ses expériences festives aux quatre coins du Québec et à l'international, la formation propose quatre nouveaux titres et un style redéfini, du gypsy rock à la sauce métal. Rendez-vous le mercredi 7 décembre 2011 à l'Ampli de Québec en formule 5 à 7. Entrée libre. Mélogramme, également un spectacle à tous les troisièmes dimanches du mois, au dimanche festif de la Nicasie, et le 10 décembre au festival Relève en Capitale au concert patiné de la place d'Youville. Informations sur mélogramme.com.
Le tout vulgarisé est présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30. Seulement au 89.1. This is Tic-Tac-Toe. Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Chaumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts.
Cultive tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418-529-3829.
Légèrement dépassé 18h, mais quand même on entame, malgré la feuillette entamée, on la réentame, la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. C'était un petit peu boiteux comme entrée de matière de deuxième partie d'émission. On accueille Anouk Desloges. Bonjour Anouk.
Bonjour à tous.
Ça va bien?
Ça va très très bien. Vous, ça va bien?
Oui, ça va très bien. De toute façon, je me suis étendue là-dessus au début de l'émission.
Ah oui, il manquait ça.
Jamais voulu entendre à quel point j'étais de bonne humeur. Je peux toujours aller sur le site de l'aérospatiale.wordpress.com et vous allez m'entendre m'épivarder sur le sujet.
Écoute l'émission.
Écoute, Anouk, avant d'embarquer dans ta chronique, là, quand même, tu fais partie de l'exposition Exploration spatiale. Tu as eu à repenser Psycho-Chem que tu as fait l'été dernier à Baie-Saint-Paul. Peux-tu nous parler un peu d'expérience?
Exactement. De repenser ou de l'exposer?
Différemment, oui, en fait, de repenser à une manière de présenter.
L'ambiance est extrêmement différente. J'avais présenté au Carrefour culturel Paul Médéric à Baie-Saint-Paul cette exposition-là pour laquelle j'avais eu la bourse de première ovation. Puis c'est vraiment un grand espace avec des grandes fenêtres.
C'est millénaire.
C'est vraiment super différent. Puis là, je me ramassais toute prise là, exactement. Puis là, essayer de gérer ça. Donc, ce qu'on a fait, moi, puis Audrey, comme on a repensé à ça, c'est de créer une ambiance beaucoup plus intime. En fait, je trouve que ça se porte beaucoup plus à mon travail, qui est l'intimité au grand complet. Donc, quand on rentre, il y a les pyramides, qui sont comme les gardiens de l'endroit, qui tiennent la place, qui sont un peu dangereux.
Ils sont pointus,
oui, c'est ça. Il y a 12 pyramides en rentrant qui sont collées, qui gardent l'endroit. Puis ensuite, il y a le parcours qui se fait avec les labyrinthes, parce que tout porte sur les labyrinthes et sur les textes qui nous amènent dans ce canal-là, dans ce labyrinthe-là, un peu angoissant, un peu rose, un peu d'or, quelque chose de mystérieux. Là. C'est vraiment le mystère là, se porte à merveille dans les cellules.
Ben voilà, tu vends très bien ton travail. Toujours, je dis exploration spatiale au Musée national des Beaux-Arts du Québec. C'est gratuit d'ailleurs, je le précise, je ne l'avais pas dit avant. Mais là, on s'en va dans un autre lieu.
Exactement, parce que l'exposition se tient au lieu, justement, sur la rue Caron. Ce soir, je vais vous parler de Cindy.
Sur la rue Dupont.
Dupont, j'ai dit Caron.
Oui, oui, c'est pas grave.
C'est la rue Dupont de Cindy Dumais. Ravissement. Au lieu du 18 novembre au 11 décembre, ça finit très bientôt, donc je me lance à l'instant. Cindy Dumais, c'est qui? Je la connaissais pas. C'est une fille originaire du lac Saint-Jean. Elle s'installe au Saguenay après sa formation de la maîtrise. Elle enseigne, là j'énumère, elle enseigne la pratique des arts au cégep de Chicoutimi, elle pratique des projets collectifs ou en solo dans le cadre d'expositions en scénographie, en conception graphique, en illustration. Elle a aussi un rôle en tant qu'auteur littéraire et éditrice. Elle travaille actuellement sur un projet intitulé Métabole noir qui tente de se faire rencontrer l'essai, le roman et la poésie. Donc, c'est beaucoup de choses. Exactement. Donc, Cindy Dumais, c'est ça. Il y a plusieurs choses. Elle tente d'exprimer. Elle porte beaucoup de chapeaux en même temps. C'est plusieurs personnes. On va voir comment qu'elle le fait. Puis, son approche, alors, se définit justement par la rencontre des différents milieux, pas simplement matériels, mais conceptuels. Elle s'intéresse à l'avènement de la pensée, des manifestations extérieures et au comment elles conditionnent nos comportements. Bon, je vais essayer de faire ça, mais je vous dirais que la démarche, je l'ai lue, relue, là, c'était pas... c'était
un exercice d'approche.
Exactement. Mais j'ai retenu des mots, moi, qui m'avaient vraiment frappé, puis j'ai vraiment compris une fois que j'ai été à l'exposition. Elle dit qu'elle devient un sujet-objet qui, par une recherche multidisciplinaire, passe par le moi-canal. Donc, elle-même se définit comme un moi-canal. Et je cite ce qu'elle dit. Je tente de trouver des surfaces de frottement entre les divers éléments participants de la vie qui peuvent participer à l'art. Je m'intéresse au potentiel de fragmentation, de recombinaison, des disciplines et des objets artistiques. Donc, c'est vraiment là plusieurs choses ensemble. L'expo, quand on rentre, on est automatiquement animé par des œuvres qui sont incroyablement intrigantes. Quand on se retourne, moi j'arrive là, puis en rentrant, je me suis collée à des œuvres. Puis quand on se retourne, on voit plusieurs objets, des 2D, 3D. Il y a des tableaux portraits en aquarelle qui incluent 2D, 3D, des bâtons qui sortent des murs, d'autres qui pendent à partir d'un système d'accrochage. Tout est peau, blanc, rosé, un peu de rouge sang, un peu de noir. Bref, tout ce qui rappelle les organes et le corps humain.
Les fluides. Puis...
Exactement. J'ai été attirée au début par une femme qui était peinte avec, dans ses bras, il y avait une grosse masse molle couleur peau blanche. On ne sait pas ce qu'elle a. Moi, j'ai cru que ça pouvait être un enfant, mais bref.
Mais c'est ce qu'on s'imagine,
au moins. Mais ça change. Là, après ça, il y a un bâton qui sort du mur d'au moins 2-3 pieds, vraiment perpendiculairement. Au bout, il y a une masse ballonneuse noire. On dirait des alvéoles. Il y a un corton d'épaule de soutien-gorge qui tient en bas une masse étrange blanche qui laisse traîner par terre un collier de perles. Tout est un peu... Quand je traverse ça, un autre portrait de la même femme, mais avec un autre point de vue. Puis là, la masse qu'on voyait, la masse est noire, ça sort du cadre, ça dégouline au mur, puis ça devient un gros carton noir qui est en fait comme un tableau noir d'écolier avec des fractions. Là, je continue, il y a une autre femme, portrait aquarelle, la même chose.
La même femme?
Ah oui, puis là, je me revire, puis là, je commence à comprendre, je me dis... Il y en a partout de ces femmes-là. Donc, c'est vraiment l'œuvre centrale. On la voit jeune, vieille, triste, neutre. Je comprends que c'est elle qui parle ou c'est elle qui me parle. Mais celle-ci, la troisième que je parle, parce qu'il y en a plusieurs, mais quand même, là, je me suis arrêtée à trois dans ma description, elle a encore la masse dégoulinante, mais en s'éloignant, on se rend compte que ça pourrait être peut-être, on ne sait pas sûr, mais peut-être, une silhouette humaine. Puis à l'intérieur, il y a un collage avec plusieurs textes, fragments de textes, un peu de dessin. Puis c'est là que j'ai compris, tu sais, la grande démarche là, que j'avais dû
adapter.
Puis en lisant les fragments de texte, je lis, je commence par la fin, bien sûr, et je lis... C'est parce qu'elle veut tout dire en même temps.
Ah ouais, c'est ça.
Je veux un ciel qui ressemble à l'intérieur d'un corps, plein d'images, de mots qui s'entremêlent et se superposent. Là, je comprends, fallait le dire. Je continue à tourner, puis c'est vraiment un parcours, là, c'est pas un ensemble.
Oui, c'est ça. C'est donc d'une station à l'autre, finalement. Il y a une progression de cette manière-là.
Oui. Il y a des bijoux au mur. À un moment donné, il y a un autre, là, tu sais, là, les femmes, on passe, mais il y a des bijoux au mur qui sont, en fait, l'intérieur. Tu sais, quand on prend de l'argile à l'intérieur de nos doigts, puis ça fait mal, ben, il y a des bijoux qui sont comme ça, des bijoux précieux, qui sont brillants, qui sont accrochés au mur. Il y en a que c'est ça, des colliers. Donc, tu sais, c'est vraiment une intériorité qui est précieuse, parce que les bijoux, c'est précieux. Moi, je l'ai vu comme ça.
Ben, ouais.
Donc, je trouvais que...
C'est une richesse aussi, puis tout ça qui est évoqué de manière sous-jacente.
Exactement. Oui, c'est vraiment c'est une petite intériorité parce que c'est l'intérieur des choses, l'intérieur de notre pomme de main, l'intérieur de telle chose. Puis c'est, pour moi, je les voyais très, très précieux. Donc, dans tout ce qu'il y a là, il y a de la dentelle, ça dégouline, il y a de la résine, de la soie, des perles, des trucs, des bâtons, mais tout est
très baroque, comme ça, de la manière dont on parle.
Tout le temps, c'est un peu organe, c'est très couleur peau, c'est pas dégueu, on fait pas. Ah, c'est très féminin. Mais pas bling-bling, pas kitsch, c'est féminin. Tu sais, c'est doux, puis en même temps, c'est tellement étrange. Tout est d'une étrange étrangeté, comme on dit.
C'est un peu surréaliste, chaque chose.
Oui, puis on se demande c'est quoi. Chaque chose, on se dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme un bout de bras ou est-ce que c'est un bout d'oreille? Puis finalement, on le sait pas, mais elle finit dans son texte à dire, dans mes mots, je vous le dis, peu importe ce qu'on voit, c'est de la peau puis c'est du corps.
Ouais, c'est ça.
Fait qu'on essaie de deviner, puis on a l'impression d'être à l'intérieur d'un corps humain. Donc, elle s'exprime par les organes.
Ouais, c'est ça. Elle les met là-dedans.
Exactement. Donc, j'ai vraiment très adoré. C'est une Zimet Ravissement du 18 novembre au 11 décembre. Ça termine dans quelques jours au lieu sur la rue du Pont.
Et voilà, puis en plus, ben, c'est ouvert, le lieu est ouvert à tous les jours, donc on a la chance, c'est quand même assez rare pour les centres d'artistes, donc on peut y aller avant 17h, de midi à 17h, je crois. Ben, Maud Belloge, merci beaucoup.
Merci, je vous souhaite bonne soirée, puis encore bonne soirée avec le aérospatial et exploration spatiale.
Ah oui, c'est vrai, hein? Je n'avais pas vu celle-là. Ah, excellent. Oui. On s'en va pour l'audio, on écoute Night J sur les ondes de CKRL. Cosmic Dance of Tanzania de ABC 100, une suggestion de Simon Roy. Et j'allais dire sur le site l'aérospatial.wordpress.com, mais également, si vous voulez nous suivre de manière peut-être un peu plus quotidienne ou au fil de nos actions, vous pouvez également nous suivre sur Facebook. On a une page, ça se trouve très, très, très aisément. Pour cette dernière, ce dernier quart d'heure d'émission, on reste dans Exploration spatiale et pour en discuter, on rencontre deux artistes de l'exposition. Marjorie Deschantal, bonjour.
Bonjour.
Et Josée Landry-Sirois, bonjour Josée.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, ça va très bien. Encore une fois, je le dis, je m'épuverdais là-dessus. Au début de l'émission, on dirait que tout le monde me pose la question au moment où je me suis étendue sur le sujet en long et en large et où je ne cesse de le faire. Les filles, vous avez eu toutes les deux des bourses de première ovation. Pouvez-vous nous parler un peu des projets qui étaient liés à ça, peut-être, Josée, en commençant?
Oui, mais en fait, moi, j'ai une bourse dans le cadre, c'est une bourse de mentorat. Alors, une bourse que j'ai utilisée pour aller chercher l'expertise de quelqu'un qui pourrait m'aider pour un projet spécifique. Je sais pas si tu es un peu au courant, en fait.
Ben, parle-nous-en.
Oui, ben, je vais vous en parler. Alors, on connaît la pratique en dessin. En fait, l'automne dernier, je me suis lancée au défi de réaliser, je les appelle mes dessins en volume, qui sont des pièces tout en papier, je tiens à préciser, près du dessin, mais qui sont à la limite de l'objet sculptural, où je questionne vraiment la spécificité du papier et sa force et ses limites. Voilà. Et la pièce que je présente au Musée du Québec, la pièce que Audrey Caro a choisie, c'est un camé. C'est l'image, c'est un visage de femme, le camé qu'on connaît, la figure très emblématique, qui est faite à partir de différents plans de papier. Et tout autour, on y retrouve aussi plusieurs interventions en dessin, c'est en graphite. Voilà.
Merci. Marjorie, de ton côté, tu as réalisé une vidéo?
Oui, en fait, j'ai réalisé avec l'aide de Première Ovation la vidéo Éco-sonore, qui était en fait une vidéo qui traitait du corps, de la danse et tout ça. Puis en fait, c'est la danse qui finalement, le mouvement qui générait des sons. Donc j'ai travaillé avec Avatar en collaboration finalement pour me faire un... En fait, j'avais des senseurs sur moi, tout ça. Donc c'est moi qui dansais et qui faisais qui chaque mouvement en fait génère du son, donc c'était la chorégraphie finalement qui faisait la trame sonore de la vidéo et non souvent l'inverse, on s'inspire de la musique pour faire les mouvements, fait que moi c'était un peu une questionner ça versus l'environnement qui se trouve autour de toi.
Et est-ce que pendant que tu dansais tu entendais les sons que tu générais?
Oui.
Ok, donc t'as vraiment pleinement le contrôle là, sur ton corps de l'espace.
Oui et non, parce que en fait, avec tout ça sur moi, c'est quand même un équipement, puis mes déplacements n'étaient pas les mêmes. J'aurais pas bougé de la même façon si j'avais pas eu ça sur moi, puis fallait pas que je fasse bouger tout en même temps, donc dès que je bougeais le bras, ben fallait pas que je bouge le dos nécessairement si je voulais entendre ce son-là, fait que c'était vraiment, c'était très très expérimental, mais c'était très particulier d'avoir ça tout ça sur moi, puis de me déplacer, puis essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait donner, puis tout ça.
OK, donc c'est vraiment, en même temps, c'est de l'exploration.
Oui,
aussi,
vraiment, vraiment beaucoup, là. C'était juste de d'échantillonner les sons aussi, puis de toute la programmation, comment on fait pour le son, tel son, je le mets où, il va faire quoi, sur quel type de senseur, puis tout ça, puis après ça, bon, OK, maintenant j'ai tout ça sur moi, je fais quoi? Je commence avec ça, tu sais, comment ça, mon corps va répondre à tout ça, fait que c'était vraiment très expérimental, mais c'était vraiment, vraiment une super expérience aussi, là.
Qui va t'amener dans une
direction, j'imagine. Oui, qui était quand même très proche de ma démarche passée, mais qui l'a amené à un autre côté avec les senseurs et tout ça, là, une technologie que je connaissais pas vraiment, là, puis... J'ai vraiment trippé à utiliser ça et tout.
Père Josée, Marjorie parlait de choses qui étaient très proches de sa démarche. Toi aussi, dans le fond, papier, tu pratiques le dessin depuis longtemps, mais là, est-ce que tu as un nouveau rapport au dessin avec l'introduction comme ça des papiers pliés sur la surface?
Bien, en fait, c'est assez, je voudrais dire que c'est assez général. Tu sais, j'ai une pratique en dessin, mais j'ai aussi une recherche dans l'accumulation, que ce soit d'allumettes, que ce soit de collections qui sont des objets aussi de papier.
C'est vrai.
Mais je dirais que ça finit toujours en 2D, mais là, c'est vraiment tout un autre rapport à j'oserais dire, comment figurer, comment, qu'est-ce que ça va devenir, chose qui était plus difficile pour moi parce que je ne suis pas sculpteur et la construction de ces objets-là, j'avais du mal à le faire. Je sais pas si j'ai précisé plus tôt que c'est une bourse de mentorat que j'ai fait avec l'artiste Aline Martineau.
Tu ne l'avais pas dit, donc ouais, tu viens de le mentionner.
Effectivement. Mais oui, ça a changé beaucoup mon rapport. Mon rapport, j'oserais dire, à ajouter des objets dans mes dessins ou à construire des dessins à partir d'objets plutôt.
Et tantôt, on en a parlé un peu, le camé, en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers ce, j'appellerais ça un motif, je ne sais pas si tu l'appellerais comme ça, mais qu'est-ce qui t'a amené vers le camé?
Je pense qu'on peut presque dire, c'est vraiment comme une figure, un archétype qui pour moi est d'une force très intemporelle. C'est quelque chose qui nous suit, peu importe qu'on en parle à nos grands-mères ou quand on en parle à des gens de diverses générations. Je pense que c'est une figure qu'on connaît, on connaît l'image et on sait que ça a quelque chose de très précieux, c'est-à-dire qui persiste dans le temps.
Oui, ça date des Grecs, hein?
Oui, exact. Et c'est ça, c'est quelque chose de très précieux, très fin, qui est fait par procédé de soustraction dans une pierre. Et c'est ça, c'est un défi de le réaliser en papier avec une matière, avec le papier qui est très fragile,
ouais.
Puis aussi de jouer avec le dessin, tu sais, des fois c'est ça, comme je voudrais dire, ça risque d'être too much quand on met un objet avec du dessin, ça peut être trop, ça peut être surchargé, puis je me suis donné le défi de travailler aussi le dessin pour créer un motif tout autour de cette figure-là. En tout cas, pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est le dessin est plein de motifs ornementaux composés de 8, comme des symboles d'infini, d'éternité, de liberté qui se répètent. Puis,
c'est un nouveau motif, d'ailleurs, le 8, hein, il semble revenir de plus en plus.
Oui, bien, je pense que pour ceux aussi qui ont déjà vu mes dessins, il y a toujours des motifs qui se répètent de façon obsessive, un peu comme des mantras ou des équations cunéiformes, mais là, c'est près de l'arithmétique où ça devient un motif qui remplit le papier. Puis, je pense encore que c'est un modèle archétype qui ouvre sur plusieurs pistes de sens.
D'ailleurs, je pense aux pistes de sens. J'essaie des fois de faire des liens. Ma femme peut-être un peu maladroit, mais je vais aller discuter avec Marjorie. En fait, toi, tu t'intéresses beaucoup au corps, à la figure du corps humain, le tien ou le corps en général?
Le corps en général, en fait, moi, j'ai un peu une passion pour la danse ou pour le mouvement du corps, que ce soit en photo, en vidéo ou en peinture. J'utilise beaucoup le corps comme matière première, puis c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Ben beaucoup, en fait.
Et qu'est-ce qui t'inspire dans le corps? C'est le rapport au monde? C'est le rapport à l'espace? Le rapport à soi-même?
Ben, c'est tout ça en même temps, tu sais. C'est un peu... mais en fait, c'est comme mon outil principal, finalement. Fait que j'ai envie de l'exploiter. Puis c'est un peu comment le corps peut se déplacer dans l'espace, comment la danse, qu'est-ce que ça peut exprimer, comment tu peux exprimer certains sentiments ou certaines choses avec ton corps, puis les mouvements que tu peux faire ou... juste les figures, juste en bougeant. C'est vraiment ça qui vient me chercher, là, en fait. Là, c'est comme... c'est profond, je sais pas, c'est vraiment...
C'est un peu viscéral. C'est quelque chose que vous partagez les deux aussi, ce côté-là du viscéral.
C'est quelque chose que... Le corps, je pense que...
Mais pas tant le corps que l'idée du viscéral, c'est l'idée de besoin.
De mon côté, plutôt dans l'ordre de l'intuitif, là, quelque chose de très près de l'accident dans mon travail où, quand je te disais plutôt que j'ai de la misère à figurer qu'est-ce que je vais faire, je pose des gestes puis je joue beaucoup avec qu'est-ce qui pourrait arriver. Puis je pense que l'accident est plus souvent heureux que malheureux. Puis, j'oserais même dire, par rapport à la pièce qui est au Musée du Québec, où par exprès où je laisse toujours sur mes dessins des traces de travail qui peuvent...
Les doigts.
Oui, les traces de doigts, des... Ouais, des... Ça s'en va... On peut même parler de question de repentir au sens où on voit toutes les étapes, puis même les gribouillages, même, j'oserais dire, le ratage, tu sais, que je laisse une trace dans le processus du travail. Puis pour moi, ça, c'est très important.
Eh bien, c'est tout le temps qu'on a. José Landry-Sirois, merci beaucoup. Marjorie de Chantal, merci beaucoup.
Fait plaisir.
Donc, je le répète, hein, Exploration spatiale qui est présentée dans le cadre de Relève en Capitale. C'est au Musée national des beaux-arts du Québec jusqu'au 15 janvier. C'est gratuit, donc on n'a pas de raison de ne pas y aller, découvrir des artistes et la scène artistique dynamique d'ici. D'ailleurs, parlant de scène dynamique, il se passe plusieurs choses cette semaine. Ce soir, d'ailleurs, si vous voulez encourager le salon Nouveau Genre qui aura lieu en fin de semaine, vous allez boire de la bière au Sacrilège. Question pour le party de bureau, des sans-bureaux, parce que les artistes habituellement n'ont pas, ou les artisans n'ont pas nécessairement de bureau à proprement parler. Si vous voulez encourager les artistes aussi, quelques événements dans le genre. Vendredi 9 novembre, c'est le vernissage du marché de Noël de l'Établi. À compter de 17h l'an dernier, l'Établi avait fait son premier marché de Noël. Ça avait très, très bien fonctionné. Donc, si vous voulez vous acheter des photos d'une palette de prix allant de 20 à 500 $, vous avez vraiment une très, très grande variété. C'est en fin de semaine, samedi le 10 et dimanche le 11, c'est le Salon Nouveau Genre. Cette année, c'est à l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est ouvert de 11h à 20h. C'est pas cette semaine, mais j'en parle encore parce que pour une première fois, le lieu va faire un encan d'œuvres d'art qui aura lieu à compter de mardi de la semaine prochaine. Je crois qu'il va y avoir un site Internet qui sera consacré à cet encan-là. Donc, on aura l'occasion de vous en reparler. Puis, si vous aimez le mélange art visuel et musique, Regard vous propose dimanche le 11 décembre de 14h à 17h, un après-midi ambiant à Regard, donc qui propose une conjugaison du travail de Virginie Mercure et de Chabla Orchestra et de Disquiet Army. C'est déjà terminé pour l'aérospatiale cette semaine. Je remercie Raymond Poirier à la mise en onde. Je vous laisse entre très bonnes mains avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique. Donc, bonne semaine à tous.